Manger vrai.
Vous êtes la décadence de la restauration française. Alors d'abord, je ne suis pas ton petit coucou, je suis le petit coucou de personne.
Philippe Dumoulin.
Pas de familiarité.
Bonjour à tous, bienvenue, on cuisine vos régions. Vous le savez, dans cette émission, on s'intéresse aux produits et à ceux qui les font. On se balade dans nos régions et dans les terroirs français. Les fêtes de fin d'année approchent, on va mettre, si on mangeait vrai, les produits de fête à l'honneur. Mais juste avant d'entamer ces moments festifs, je voulais aujourd'hui vous parler des labels dans cette émission et mettre en avant quelques produits labellisés. Les labels sont nombreux et nous, consommateurs, on est vite perdus. AOC, AOP, STG, label rouge, IGP, AB, produits certifiés, mais aussi commerce équitable, produits de l'année, Déméter, etc. Il y en a beaucoup. Beaucoup trop, c'est un vrai débat. Et il y a aussi le fameux Nutri-Score et ses lettres qui caractérisent un produit, y compris un produit de terroir. Qu'est-ce que ces labels? Quelle est la garantie? On en parle juste après Camélia Jordana. Silence sur Manger Vrai.
Vous écoutez Manger Vrai, la radio des terroirs et de la gastronomie.
Tu parles trop. C'est mieux, chaque fois que tu l'ouvres, ça te fait défaut. Cierra la boca un peu. Je fatigue, tu m'irrites. Je t'assure, t'es gênant. Tous ces mots qui me piquent, respecte-toi maintenant. Silence, silence, montre-moi les angles. Bêtise est grande, je sais pas comment dire. Avance, avance, avant que je te sangle. T'as pas les épaules pour porter cet empire. Silence, silence. Silence, silence. Tu craches trop. Ce dérangement quand tu te montres, tu sais pas comme j'ai honte. C'est si dur, c'est malaise. Je te jure, je les sens. C'est flippant, t'es balèze. Mais ce ton est indécent. Silence, silence, montre-moi les angles. Ta bêtise est grande, je sais pas comment.
Jordana, silence sur Manger Vrai.
Manger Vrai, la radio des terroirs et de la gastronomie.
On s'intéresse aux signes de qualité aujourd'hui, les fameux labels, et ils sont nombreux. Sommes-nous un peu perdus avec ces labels? Eh bien, en toute honnêteté, oui, complètement. Alors, pour commencer, les labels sont attribués par l'INAO, Institut National de l'Origine et de la Qualité. Alors, le rôle de l'INAO tel que défini sur leur site internet est le suivant. L'INAO assure la reconnaissance et la protection des signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine des produits agricoles, agroalimentaires et forestiers. C'est un établissement public chargé de la mise en œuvre de la politique française relative aux signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine des produits agricoles et agroalimentaires. L'INAO accompagne les porteurs de projets, les filières qui veulent protéger le produit, le savoir-faire, et elles examinent les propositions des professionnels, donnent un avis sur le cahier des charges mis en place par les filières. Elle est aussi chargée de la supervision du dispositif de contrôle, le contrôle du respect du cahier des charges mis en place par ces filières. C'est lui, l'Institut, qui agrée et évalue les organismes indépendants chargés du contrôle du respect du cahier des charges. Et bien sûr, l'INAO prononce la reconnaissance des organismes qui assurent la défense et la gestion des produits bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine. Un autre point important, l'INAO veille avec les filières, bien sûr, à ce que les noms des produits sous signes officiels ne fassent pas l'objet d'usurpation ou de détournement de notoriété, ce qui arrive quand même régulièrement. Alors, pour obtenir ces signes de qualité, les filières sont bien obligées de se structurer, de se regrouper. Elles sont souvent organisées pour obtenir ces signes de qualité. Elles se structurent, comme je le disais, et se regroupent au sein d'une interprofession, d'un syndicat de producteurs, d'un organisme de défense et de gestion. Pour obtenir ces signes de qualité, les filières s'engagent dans un long parcours, pour ne pas dire un parcours du combattant. Elles doivent répondre à plusieurs questions, monter des dossiers, et ça prend énormément de temps. Qu'est-ce qui fait la haute qualité de mon produit? Sur quelle zone est-il produit? Quel est le savoir-faire? Comment on contrôle la qualité du produit? Quel est l'organisme de défense et de gestion qui va défendre le produit, le label? Quel est l'impact technique et économique? Quel est le cahier des charges qui est imposé aux producteurs et à toute la filière? Alors, pour monter ces dossiers, donc c'est beaucoup, beaucoup de questions, comme je vous le dis. Et enfin, obtenir le signe de qualité, le label, c'est un parcours du combattant qui peut prendre plusieurs années. Mais tous ces labels se valent-ils? Sont-ils vraiment une garantie de qualité? Comment se repérer dans cette jungle des labels alimentaires? Un label de qualité est avant tout un moyen de faciliter la reconnaissance par le public de certaines caractéristiques d'un produit. Les produits bénéficiant de ces signes répondent à des conditions de production strictes, validées par l'État, selon un cahier des charges obligatoirement et régulièrement contrôlé par les organismes certificateurs ou d'inspection agréés donc par l'INAO. Une qualité portée est reconnue par un grand nombre de produits en France sous signes officiels de qualité et d'origine, offrant aux consommateurs que nous sommes l'assurance d'une qualité et derrière la protection et la valorisation d'un savoir-faire par les producteurs, les éleveurs, les agriculteurs. Dans un instant, on va détailler un peu certains labels, on parlera de certains produits, et bien sûr, c'est de tradition dans cette émission, on terminera par une recette avec un produit, évidemment, bénéficiant d'un de ces signes de qualité. On se retrouve juste après, bon entendeur, le temps est bon sur Manger Vrai.
Les nuits sont longues, les jours sont chauds.
bon entendeur, le temps est bon sur Manger Vrai. On s'intéresse aux labels dont on cuisine vos régions aujourd'hui. Des labels qui peuvent être une véritable jungle pour nous consommateurs quand on n'essaye pas de les décrypter et de s'y intéresser un petit peu. Alors IGP, label rouge, STG, AOC, AOP, AB, ils sont très nombreux ces signes de qualité. Il y a d'abord les signes européens de la qualité, donc qui sont l'appellation d'origine protégée, l'AOP, l'indication géographique protégée, l'IGP, la spécialité traditionnelle garantie, la STG, et l'agriculture biologique. Donc ça, ce sont les signes européens de la qualité. Il y a également les signes nationaux de la qualité, le label rouge, l'appellation d'origine contrôlée, l'AOC, la certification de conformité. Donc ça, ce sont les signes français de la qualité. Il y a en plus les mentions valorisantes, on appelle ça comme ça. On retrouve ici un certain nombre de mentions dont l'usage est extrêmement réglementé, comme par exemple produit de montagne, le qualificatif fermier ou encore la mention produit de la ferme. Mais attention, ces labels alimentaires sont les seuls signes dont l'utilisation est garantie par l'État. Alors, un petit peu en détail, l'appellation d'origine contrôlée, l'AOC, désigne un produit dont toutes les étapes de fabrication sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même zone géographique qui donne ses caractéristiques au produit. C'est un signe de qualité français. L'appellation d'origine protégée, l'AOP, est l'équivalent européen de l'AOC. Elle protège le nom d'un produit dans tous les pays de l'Union européenne. L'indication géographique protégée, le logo IGP, désigne un produit dont les caractéristiques sont liées au lieu géographique dans lequel se déroule au moins sa production ou sa transformation selon des conditions bien déterminées. C'est un signe européen qui protège le nom du produit dans toute l'Union européenne. Tiens, mais d'ailleurs, ça apporte quoi une IGP ? Écoutez ce qu'en pense Sébastien Muller, un des responsables de l'IGP Choucroute d'Alsace.
Ce que ça apporte, c'est une garantie d'origine et de qualité. Donc, c'est un produit de qualité sur une aire géographique donnée. Nous, c'est l'Alsace, avec des règles, qui sont des règles ancestrales qu'on rédige dans un cahier des charges, pour obtenir, un produit de qualité qui vient d'Alsace. Donc, et la choucroute d'Alsace, c'est une fermentation naturelle et des fibres longues, fines et blanches. En moyenne, vous voyez, par exemple, une fibre de choucroute, c'est 15 cm, ah oui. Que j'appelle notre spaghetti de légumes à l'alsacienne. Donc, c'est effectivement ça qui nous caractérise. Donc, c'est pour le consommateur la garantie d'avoir un produit de qualité et une origine garantie du produit local. Comme on entend beaucoup parler, les indications géographiques protégées, oui. C'est vraiment... Ça sert vraiment à ça. Ça nous permet effectivement de protéger le produit, c'est-à-dire que personne d'autre peut se prévaloir depuis 2018 de notre technique, de cette longueur, de ce produit particulier, ni en France, ni en Europe. Et ça, c'est aussi quelque chose effectivement d'important. Ça permet de maintenir aussi toute une filière, parce que la choucroute d'Alsace, c'est certes le produit fini, oui. Qui est distribué par 10 choucrouteries aujourd'hui, donc des fabricants de choucroute qui transforment le chou en choucroute. Mais c'est aussi une cinquantaine de producteurs qui font justement toute cette filière qui est la filière du chou et de la choucroute d'Alsace qu'on rassemble au sein d'une ODG, comme pour toutes les IGP. Hein. ODG, c'est Organisme de Défense et de Gestion. Qui gère cette filière, justement.
Merci Sébastien Muller, donc un des responsables de l'IGP Choucroute d'Alsace. Il y a ensuite le label rouge. Le label rouge, c'est un signe français qui désigne des produits par leurs conditions de production ou de fabrication et qui ont un niveau de qualité supérieur par rapport aux autres produits similaires. Donc ça, c'est le label rouge. Le logo agriculture biologique, le fameux AB, il garantit que le mode de production est respectueux de l'environnement et du bien-être animal. Les règles qui encadrent le modes de production biologique sont les mêmes dans toute l'Europe et les produits importés sont soumis aux mêmes exigences. Ceci dit, ça ne veut pas dire que les autres produits labellisés label rouge, AOP, AOC, etc. Ne respectent pas l'environnement ou le bien-être animal, hein, on est d'accord. On ne va pas détailler tous les labels, mais je voulais rajouter quand même la spécialité traditionnelle garantie, la STG. Elle protège la composition traditionnelle d'un produit ou un mode de production traditionnel au niveau européen. On retrouve également sur les emballages un grand nombre de logos et mentions qui ne sont pas forcément des labels alimentaires, mais qui peuvent fournir des informations intéressantes au moment de choisir notre produit. Il s'agit du commerce équitable, de la pêche durable, du bleu blanc cœur, donc ça c'est la chaîne respectée du champ à l'assiette, etc. Il y en a vraiment beaucoup aussi, et ça pourra faire d'ailleurs l'objet d'une autre émission sur Manger Vrai. Je voulais également vous parler de quelque chose qui fait débat et qu'on retrouve également sur nos emballages, sur les emballages de nos produits, y compris les produits de terroir, et je je pense par exemple au Roquefort ou au Port Noir de Bigorre ou encore certaines volailles. Ce logo mis au point par l'INSERM attribue des points sur l'apport nutritionnel des produits. Vous l'avez reconnu, hein, le fameux Nutri-Score. Donc de A, vert pour les bons élèves, à E, rouge pour les moins bons élèves, on va dire ça comme ça. Les parlementaires européens ont décidé de généraliser l'étiquette Nutri-Score à l'ensemble des produits de consommation et non plus seulement à l'industrie. Un système harmonisé et obligatoire d'étiquetage nutritionnel, voilà ce qu'ils veulent mettre en place. La colère gronde chez les producteurs et les artisans, fer de lance de cette protestation. Ces producteurs de produits bruts comme l'huile d'olive, le roquefort ou encore la feta craignent l'impact économique de cette notation. Contrairement à ce qui s'était passé en France lors de l'adoption de l'étiquette à titre expérimental, ce ne sont pas les industriels qui, cette fois, mènent la fronde, mais bien les producteurs de produits bruts comme le miel, le roquefort, la feta, l'huile d'olive, qui dénoncent une évolution faite sur des proportions de 100 grammes. Ces derniers demandent à ce que les produits avec label d'origine soient exclus de cette obligation de Nutri-Score. Une demande à laquelle le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, prête une oreille a priori attentive, sans remettre en cause le principe du Nutri-Score. Il a d'ailleurs appelé à revoir la méthode de notation. Donc on va suivre ça de très très près, évidemment. En fait, les producteurs craignent les conséquences économiques de l'étiquette. Selon une enquête de Santé publique France, d'ailleurs, 93% des consommateurs français disent identifier le Nutri-Score et 57% déclarent avoir déjà changé une habitude d'achat grâce à ce dispositif du Nutri-Score. Une étude Nielsen de 2019 démontrait que les produits A et B voyaient leurs ventes augmenter respectivement de 1,1 et 0,8%, quand eux, les aliments C et D, chutaient. Une popularité qui fait trembler certains producteurs de roquefort, fromage classé E, ou d'huile d'olive, matière grasse, classé D. Alors, nous, consommateurs, nous sommes peut-être assez intelligents pour continuer à consommer ces produits, mais comme nous dirait notre nutritionniste que vous connaissez sur Manger Vrai, Laura Libsar, c'est la quantité qui compte. On ne mange pas de l'huile d'olive ou du fromage toute la journée, on fait attention aux quantités et on déguste ces produits formidables, ces produits de terroirs extraordinaires qui témoignent d'une tradition et d'un savoir-faire. C'est donc une affaire à suivre de très près, et les fêtes de fin d'année approchant, on ne va peut-être pas quand même se priver, et peut-être pouvons-nous un peu oublier le Nutri-Score pendant cette période et se faire plaisir avec des produits de notre terroir, des produits issus d'un véritable savoir-faire. Dans un instant, on va s'intéresser à quelques produits labellisés, on va voir comment ils sont produits. C'est juste après Olivia Ruiz, la femme chocolat sur Manger Vrai.
Au bout de mes lèvres. manger de chocolat.
Olivia Ruiz, la femme chocolat sur Manger Vrai.
Une info, un message, un coup de cœur. Retrouvez Manger Vrai sur Facebook.
On cuisine vos régions, on parle des labels de qualité aujourd'hui et maintenant on va voir comment on les produit. Prenons par exemple la choucroute d'Alsace pour commencer. On retrouve Valentin Weber, il est choucroutier, une choucroute bénéficiant d'une IGP.
Comment ça se passe? Les gestes sont précis, j'imagine. Le chou, il est taillé, râpé en fines lamelles, c'est ça?
C'est ça, d'abord il est étrogné. Ouais. Le chou, quand il arrive dans l'usine, on va l'étrogner. Donc on va hacher le trognon. En deuxième partie, il va être nettoyé, donc on va l'enlever des dernières impuretés, il va être paré avant de rentrer dans le couteau final. Et quand il rentre dans le couteau final, en fait, c'est là qu'il va être tranché en fine lanière, en fine et longue lanière. Et après, le procédé, donc il va être salé.
D'accord.
Et il va rentrer dans le silo de fermentation. Donc c'est uniquement du chou et du sel.
Oui, c'est le seul élément rajouté, le sel, en fait.
Voilà, hein, c'est uniquement du chou, du sel. Et donc, la fermentation lactique se fait naturellement. Et il n'y a aucun ajout de ferment ou autre, quoi. Hein, c'est vraiment du naturel, quoi.
Alors, c'est une constante surveillance, j'imagine. Vous devez sans arrêt surveiller votre choucroute et la fermentation, parce que c'est un produit vivant, finalement.
C'est ça. Donc, une choucroute crue est un produit vivant. Hein, pour la choucroute nouvelle, par exemple, au mois de juillet, on a une quinzaine de jours de fermentation, même un petit peu moins. Tout dépend de des conditions climatiques. S'il va faire canicule, s'il va faire très chaud, ben la fermentation sera plus rapide. Et quand il fera plus froid, la fermentation sera plus longue. Donc, cet IGP, entre autres, nous permet aussi de mieux valoriser la matière première, de mieux vendre notre choucroute, pour pouvoir mieux rémunérer notre matière première chez les producteurs. C'est vraiment en ayant la choucroute d'Alsace IGP que vous saurez que vous soutiendrez la filière de choux en Alsace, quoi. Hein.
Ouais.
Manger Vrai, la radio des terroirs et de la gastronomie.
De l'Alsace, on prend la direction de l'Auvergne. On va s'intéresser à la production du Saint-Nectaire. Ce fromage, lui, bénéficie d'une AOP, appellation d'origine protégée.
Les étapes, alors les secrets de fabrication de ce Saint-Nectaire fermier. Alors, c'est un fromage fabriqué au lait cru entier sur l'exploitation, c'est ça?
Oui, exactement. Donc, en fait, après chaque traite, le lait est transformé, donc en présuré, et est transformé immédiatement après chaque traite. On ne mélange pas les traites du matin et du soir et on transforme dans l'heure qui suit. Donc, c'est un lait ultra frais.
Ah oui, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'empressurage, c'est ça?
Voilà, donc l'empressurage, en fait, c'est ce qui va permettre au lait de coaguler. Donc, ça dure environ 30 minutes. Selon les fermes, ça peut varier un petit peu, mais c'est environ 30 minutes. Et ensuite, on va décailler. Donc, en fait, ce lait qui a changé d'aspect, qui est passé de l'état liquide à l'état solide, on va le découper en forme de grains avec des grands fils ou des grands couteaux. Et on va obtenir un petit grain de maïs. Donc, ça s'appelle le caillé. Ensuite, on le brasse. On fait sortir le sérum qu'on peut appeler ici, à la ferme, on appelle ça le petit lait.
Ah oui.
Voilà. Et donc, une fois qu'on a soutiré ce petit lait, en fait, on prend le caillé qui est dans la cuve, on le met dans des moules. Et là, on va faire le moulage, ce qu'on appelle. Donc, en fait, on a une machine qui va nous aider à mouler le fromage. Donc, c'est une machine, mais ça refait les gestes traditionnels, en fait, des mains qui vont presser tout autour du moule pour vraiment donner à la tome l'aspect qu'on voudra ensuite pour le fromage. Donc, après cette étape, on le sale sur les deux faces. On met du sel.
C'est du gros sel.
Gros sel.
Ouais, c'est ça.
Oui, exactement. C'est du gros sel. Donc, on y place aussi une petite plaque de caséine ovale. Donc, elle est verte. Et dessus, il y a un petit peu l'immatriculation de chaque exploitation. Donc, on va y retrouver un numéro de fromage. Chaque fromage a son numéro. Et chaque ferme a son matricule. Donc, on saura, en cherchant cette plaque, en fait, toute la traçabilité de quel jour et par qui a été fabriqué ce fromage.
Et ça, voilà. C'est ça la traçabilité, finalement, de ce Saint-Nectaire.
Exactement. Ouais. Exactement. Et donc, ensuite, on va les placer dans des moules à Saint-Nectaire, donc vraiment typique au Saint-Nectaire, et placer dans une toile de lin humide. Et ensuite, on va mettre un cercle en inox qui en fait tout le tour. Et on va les mettre à presser ensuite 12 à 24 heures sous une presse. Et là, donc, le fromage est fabriqué.
Là, il est frais, il est fabriqué. Il n'est pas prêt à être dégusté encore.
Ah non, hein, pas tout ça. À fait. Il reste encore pas mal d'étapes.
Alors justement, l'étape suivante, donc une fois qu'on l'a mis en moule, ce Saint-Nectaire, eh ben on le démoule, j'imagine.
Voilà, donc là, du coup, le démoulage, et ensuite, on les place au froid, dans une chambre froide, sur entre 8 et 10 degrés, donc on les met au maximum une semaine, voilà, au froid, donc on appelle ça le temps de ressuyage, ça va permettre de sécher le fromage un petit peu, avant de passer à l'étape suivante, qui est l'affinage.
Ah, et là, donc, c'est un secret, l'affinage, c'est encore autre chose, c'est un savoir-faire propre,
voilà,
en fait. Voilà,
donc voilà, exactement, donc à partir de ce stade, soit on est comme chez nous à la ferme, et on affine sur place, ou alors, on peut aussi, et on le fait aussi, partie de notre production qui est vendue à un affineur, donc qui lui se charge de l'affinage. Donc il y a deux options pour un hectare fermé. Il peut s'affiner sur place à la ferme ou chez un affineur.
Alors justement, c'est quoi l'affinage ?
Alors l'affinage, c'est, donc on les place déjà dans une cave avec une température et une hygrométrie très importante. La température, c'est entre 8 et 12 degrés. Une ventilation régulière, donc ça peut être des caves naturelles, des caves artificielles. Chaque fromage est donc placé, donc il y a plusieurs systèmes aussi, ça peut être sur des planches en bois, sur des clés inox, sur de la paille, il y a un peu chacun sa façon d'affiner, voilà, chacun son secret. Et donc ils sont placés là 28 jours minimum. Un Saint-Nectaire s'affine 28 jours.
D'accord, c'est le minimum, ça peut être plus bien sûr.
C'est le minimum, ça peut être plus. C'est vrai qu'on a à dire souvent qu'un bon Saint-Nectaire est un Saint-Nectaire de 4 à 6 semaines parce que c'est là où il est le plus crémeux, le plus doux et le plus apprécié à la vente.
C'est la même chose finalement qu'élever du vin en fait.
Oui, exactement.
C'est ça, c'est vraiment un savoir-faire, des gestes précis, un savoir-faire très spécifique en fait.
Voilà, exactement. Les fromages sont lavés à l'eau salée, hein, deux à trois fois les premières semaines d'affinage. Donc, ça leur donne vraiment de la souplesse, du goût, ça apporte un joli croûtage. Ils sont régulièrement retournés, frottés, minimum une fois par semaine, pour vraiment travailler le croûtage, l'aspect.
Mangez vrai, première radio 100% dédiée à l'alimentation.
Et pour terminer, on part dans le Nord, à la découverte des lingots du Nord, ces haricots protégés par un label rouge.
Ah bah c'est un haricot de type lingot, donc c'est vraiment allongé, bien droit, et environ 6 mm, 6-7 mm, ça dépend des années. Alors on va planter vers le 15 mai, après donc on fait l'entretien, on fait le binage mécanique, un léger butage pour le fauchage, après on laisse tranquille, et vers le 15 août, 20 août, on peut commencer... Ça dépend des années, mais on peut commencer à couper le lingot.
Ensuite, vous les mettez à sécher. Alors, vous allez nous expliquer ce que ça veut dire, mais ils sèchent en perroquet. Qu'est-ce que le perroquet vient faire dans cette histoire?
Donc, au moment, quand c'est à maturité, on le coupe au moment où il est encore frais, il n'est pas encore sec sur son pied. Mm-hmm. Donc, on coupe à ras de terre, enfin dentaire, on le coupe avec une coucheuse spécial, et puis après à la fourche, à la main, on met tout sur le perroquet. Donc le perroquet, ça fait comme une tente, comme un tipi. Il y a 8 bâtons avec quelques clous pour retenir la récolte, et on met tout dessus et il sèche comme ça à l'air libre pendant 15 jours, 3 semaines.
Ensuite, donc une fois qu'ils ont séché, arrivent les chariots, c'est ça, pour les protéger. On les met quoi? On les met dans des granges?
On charge tout sur le chariot. Une fois que ça a passé 3 semaines dehors, après on met dans le chariot et on le met à l'abri dans l'hangar. Sur le chariot, on fait des remorques, ça fait 4,50 m de haut, 5 mètres presque. Et puis après, on a le temps pour le battage. On commence au mois d'octobre le battage jusqu'au mois d'avril, mai.
Alors, le battage avec des outils traditionnels, c'est ce qu'on appelle les bogueuses, c'est ça?
Oui, les anciennes batteuses à blé, un peu transformées et en poste fixe dans l'hangar. Moi, j'ai le matériel chez moi. Mm-hmm.
Et
sépare le grain des fans.
C'est ça le battage?
Oui, c'est ça le battage. On sépare le grain de la plante.
Et là, donc après, il y a le passage au tri, donc qui se faisait à la main. Mais là, maintenant, effectivement, vous nous parliez tout à l'heure d'une machine avec optique, hein, c'est ça?
Oui, donc on passe déjà sur un calibreur pour enlever les petites graines. Ouais. Et puis après, c'est une table densimétrique pour pré-trier. Et après, on a le trieur optique pour ces caméras optiques et infrarouges. Donc, la pointe de la technologie. Je vais dire, c'est le consommateur qui va faire que l'agriculteur va pouvoir continuer, voir que des jeunes vont s'intéresser. C'est toujours le nerf de la guerre, c'est financier. Donc, il faut des contrats derrière, il faut une production qui continue. Quoi. Mmh.
Manger vrai, la radio des terroirs et de la gastronomie.
Voilà, alors c'était un petit tour de France de certains produits labellisés. Dans un instant, on va partager ensemble une recette avec un autre produit labellisé, la volaille fermière d'Auvergne. Ces volailles bénéficient d'un label rouge et d'une IGP, indication géographique protégée. On retrouve le chef Stéphane Ranieri du restaurant L'Embute, c'est à Clermont-Ferrand. Et ce sera juste après Boulevard Désert, Bruxelles, si on mangeait vrai.
Vous écoutez Manger Vrai, la radio des terroirs et de la gastronomie.
Si je te connaissais pas encore, notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pugne désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Je resterai tranquille pour qu'on le soit. Si on ne s'était jamais vu, je mâterai tes fesses à ton insu. J'aurai le compliment facile, je serai l'homme fort et le docile. Ce dernier que je ne serai plus, mon amour, je nous ai perdus. Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Et quand tu danses, c'est du dripping. T'es un cadeau pour la rétine. T'es sur une toile de Mondrian que je saccage de mille couleurs. Je t'ai sans vergogne et sans plan, juste comme ça pour le bonheur. Je vous imagine même en camping à Bruxelles. Il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore. Il y a ceux et il y a celles qui restent plantés à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles.
Boulevard Désert, Bruxelles sur Manger Vrai. En cuisine, vos régions, on parle des labels, des différents labels de qualité. Aujourd'hui, on parle également, bien sûr, de ces produits de terroir et ces produits de nos régions. Et on va cuisiner maintenant la volaille d'Auvergne qui bénéficie d'un label rouge et d'une IGP. Pour ça, on retrouve le chef Stéphane Ranieri, chef du restaurant L'Embute. C'est à Clermont-Ferrand.
Eh bien bonjour et bonjour à tous.
Et vous êtes également ambassadeur des volailles fermières d'Auvergne.
Et oui, tout à fait, voilà, depuis plus de 2 ans maintenant. Et donc, moi je travaille bien sur ces produits-là, et puis écoutez, ça s'est fait naturellement avec le syndicat. Voilà, ils m'ont proposé d'endosser ce rôle afin de continuer à promouvoir nos produits du terroir, mais de les promouvoir à travers des recettes, un petit peu différemment de ce qui se pratiquait auparavant. Heureux d'avoir ce rôle-là et heureux de participer à donner envie aux gens de consommer les produits volailles fermières d'Auvergne.
Alors, une petite recette, monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît.
Alors écoutez, bon, je vous n'habitez pas aux soirées de l'ambassadeur, voilà. Il n'y en a pas.
Les soirées de l'ambassadeur, chez vous, mais... c'est pas du chocolat, c'est de la volaille.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est moi, c'est de la volaille. Alors écoutez, j'ai pensé une petite recette assez simple, qui peut se faire par tout un chacun. Et puis allez, je vais jouer mon côté cocorico, ouais. en bon fan de rugby et de volaille, eh bien, je vais proposer une petite variante anglaise. J'ai mis en place, ça peut être sympa, un chicken and chips. Donc, en fait, c'est du poulet and chips, un peu dans l'idée du fish and chips. Ce chicken and chips, c'est une recette très simple. Il vous faut des filets de poulet que vous allez couper en lanières assez longues, piquer sur un long pic en bois, à brochette par exemple, et on va les paner en des flocons d'avoine. Alors, pour paner de la volaille ou tout type d'ailleurs de préparation panée, hein, on les passe d'abord dans un mélange, ce qu'on appelle FOC. Bon, c'est le petit mélange pour s'en retenir. FOC. Farine, œuf, chapelure. Donc, nous, du coup, on a remplacé la chapelure, enfin, on l'a coupée, disons, avec des flocons d'avoine qu'on trouve dans le commerce sans problème. Donc, vous allez rouler des lamelles de filet de poulet dans la farine, ensuite dans de l'œuf battu. Et ensuite, dans un mélange, il faut mettre autant de chapelure que de flocons d'avoine. Donc, ça permettra de coller ces flocons d'avoine sur la volaille.
D'accord.
Et ensuite, vous allez les frire, tout simplement. Soit à la poêle avec un tout petit fondu, soit dans une friteuse, si vous avez une friteuse déjà en place, mais sinon dans une poêle avec un tout petit peu d'huile, d'arachide ou tournesol, pour les faire griller et les faire cuire, tout simplement. Et voilà. Donc, c'est une recette assez simple. Et vous pouvez les accompagner avec des pommes de terre, au four, type pâté toast, c'est-à-dire des pommes de terre coupées avec la peau, avec un petit peu d'épices dessus, un tout petit peu d'huile d'olive par exemple. Si vous avez du curry, du paprika, du 4 épices, eh bien vous du sel, vous mélangez les pommes de terre avec les épices, l'huile, et vous mettez au four, voilà, allez à 200 degrés pendant 20 minutes. Et si vraiment vous avez envie de faire un petit condiment qui peut être très sympa pour tremper en fait ces chicken and chips, eh bien, je vous propose un ketchup à la bière. Très, très simple à faire. Vous prenez du miel. Allez, une grosse cuillère à soupe de miel. Vous mettez dans une casserole. Vous faites revenir des oignons coupés fins et une gousse d'ail écrasée, hachée dans ce miel. Vous allez ajouter ensuite des tomates coupées en cubes et vous allez les faire revenir dans ce miel. Vous versez une bière. Allez, vous mettez, je vous ai pas dit la quantité de tomates, mais vous mettez, voilà, 6 tomates. Vous versez une bière, voilà, de 20-30 centilitres, voilà, les 33 centilitres, très bien. Et vous laissez compoter tout ça jusqu'à l'évaporation complète du liquide. Quand c'est bien compoté, vous pouvez mixer pour avoir un ketchup bien lisse. Et voilà comment on fait un ketchup à la bière. Vous rectifiez l'assaisonnement avec un peu de sel et de poivre et du piment si vous aimez un peu relevé. Et voilà. Ça vous fait un petit ketchup pour tremper vos chicken and chips et vos petites pommes de terre.
Bon, bah écoutez, c'est très, très gentil, Stéphane, monsieur l'ambassadeur de la volaille d'Auvergne, fermière d'Auvergne. Stéphane Ranieri, je rappelle que vous êtes chef au restaurant L'Embute à Clermont-Ferrand.
Très bien, c'est exactement ça. Et bah écoutez, merci à vous. Et puis, écoutez, bonne continuation.
Manger vrai, la radio des terroirs et de la gastronomie.
On arrive à la fin de cette émission, émission un peu spéciale, hein. On s'intéressait aujourd'hui au label, d'ailleurs un sujet dont on reparlera forcément sur Manger Vrai, tellement il est vaste et d'actualité. Pour les fêtes, on peut peut-être se passer un tout petit peu de ces labels pour partager ensemble des bons produits de nos terroirs. Merci à tous de nous avoir suivis, vous retrouvez cette émission sur le site de la radio manger-vrai.net et sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi nous laisser vos messages sur le site de la radio et sur les réseaux sociaux, Facebook ou encore Instagram. Venez nous dire, tiens d'ailleurs, comment vous les voyez ces labels, est-ce que vous les suivez, est-ce que vous êtes impacté par ces labels, est-ce que quand vous faites vos courses, vous regardez tous les Nutri-Score, etc. Venez nous en parler donc sur notre site internet, un petit message ou sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite sur Manger Vrai. En attendant, belle journée à tous.
Manger Vrai.
Vous êtes la décadence de la restauration française. D'abord, je ne suis pas ton petit coucou, je suis le petit coucou de personne.
Philippe Dumoulin.
Pas de familiarité.